L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Deux invités aujourd'hui, Maud de Carpentier et Stéphanie Wenger, deux journalistes strasbourgeoises. Elles ont travaillé sur 10 épisodes de podcast avec la réalisatrice Anna Buy, des épisodes, 10 épisodes baptisés Entre nuit et lumière, le mur des noms, 10 itinéraires de vie pour découvrir l'histoire des 38 000 Alsaciens et Mosellans morts pendant la Seconde Guerre mondiale, inscrits sur le mur des noms qui prendra place en contrebas du mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck. Le projet, c'est un projet de la région Grand Est. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Ravie de vous recevoir. On va parler de ces 10 épisodes en sachant qu'aujourd'hui, il y en a 4 qui sont sur le site de la région Grand Est et sur le site Auchay qu'on peut déjà aujourd'hui découvrir. Alors, on va parler de la genèse de ce projet, ce travail de mémoire si important, hein, le mur des noms. Comment est-ce qu'il a commencé? Comment a germé chez vous l'idée? Enfin, je pense que c'est collaboratif de parler de ce mur des noms et de revenir sur l'itinéraire précisément de 10 personnes des horizons totalement différents.
Alors, en fait, on a répondu à un appel à projet de la région Grand Est qui, en lien avec l'inauguration et l'installation de ce monument, le mur des noms, voilà, a décidé de faire appel à des journalistes pour, en tout cas, présenter un peu ce mémorial et incarner, en fait, avec 10 parcours, 10 histoires de vie de personnes qui sont, dont les noms sont rappelés et les histoires sont rappelées dans ce mémorial. Donc voilà, nous, on a répondu parce qu'on a été très intéressés par ce travail et ce lien un petit peu entre l'histoire, des histoires individuelles, la mémoire. Voilà, on a trouvé des liens avec notre travail de journaliste, mais aussi qui nous permettent un peu d'aller un peu plus en profondeur et de prendre le temps de découvrir une histoire et des histoires qu'on ne connaissait pas forcément.
38 000 noms hein, sur ce futur mur des noms qui sera installé en contrebas du mémorial Alsace-Moselle. Comment est-ce que on sélectionne 10 parcours de vie aussi différents les uns des autres? Comment est-ce qu'on les collectionne, Maud de Carpentier?
Bah, ça a été un travail d'équipe fait avec justement l'équipe de la région qui est constituée de Julia Maspero, Ilse Hilbold et Frédéric Naudufour qui sont toutes les trois historiennes et qui font partie de ce projet et c'est elles qui sont à l'origine de cette idée de podcast et de cet appel à projet. En fait, elles ont fait un premier tri, une première sélection de personnes sur qui on pouvait raconter les vies. Et ensuite, on en a discuté tout ensemble pour affiner la sélection. Et comment ça s'est fait? En fait, c'était... Elles ont estimé qu'il fallait qu'on ait des personnes qui soient représentatives de catégories de destin. Le mot était soigneusement choisi, même si parfois il peut choquer, le mot catégorie de victime, quelque part. Mais en fait, il fallait bien en faire. Et donc, voilà, elles ont listé tout un ensemble de catégories. Et ensuite, il fallait aussi que les personnes sur qui on allait faire les portraits, et quelque part, il fallait qu'il y ait, par exemple, des descendants qui existent encore aujourd'hui, qui puissent nous rencontrer. Ça pouvait être un plus dans les épisodes. Ou bien, il fallait trouver des gens qui puissent représenter cette catégorie de victimes-là à travers des représentations d'associations. Voilà comment on a choisi, il me semble que c'était comme ça.
Et puis aussi c'est vrai que donc, le podcast, les épisodes fonctionnent autour aussi de documents d'archives, donc il fallait aussi que ce soit des personnes dont on pouvait illustrer la vie à travers ces éléments. Donc il y ait suffisamment de documents d'archives qui puissent ponctuer l'épisode, parce que ça raconte aussi quelque chose. Et c'est vrai que malheureusement, dans ces 38 000 noms, il y a des personnes sur lesquelles on sait encore très très peu de choses. On n'a pas grand-chose à part un nom, un acte de naissance, un acte de décès. Nous, on avait besoin aussi de cette matière-là, de cette matière d'archives, pour raconter ces histoires de vie.
Vous étiez encadré d'un comité historique. L'idée, c'était quand même d'être dans le factuel pur, de ne pas raconter une histoire d'après des faits et de ne pas romancer une histoire. C'est vraiment de rester sur des faits d'archives ou de témoignages.
Ouais, ça, c'était très intéressant parce que c'est vrai que nous, journalistes, on travaille finalement peu sur l'histoire vraiment pure et dure. Et du coup, ça nous a demandé, en tout cas moi, ça m'a demandé un vrai travail de recherche historique pour ne pas raconter n'importe quoi, en effet, pour ne pas romancer, imaginer des choses. Mais voilà, on s'est basé sur des faits, comme on fait dans le journalisme, soit en parlant aux descendants qui avaient des lettres, qui avaient des photos, qui avaient aussi des histoires qu'on raconte dans la famille. Ça reste, c'est des traces, finalement. Des historiens qui, eux, voilà, avaient un travail de recherche, d'histoire implacable, quoi, scientifique. Après, évidemment, nous, dans l'écriture, de temps en temps, on s'autorise... mais je dirais pas que c'est de la fiction. On s'autorise un peu à raconter quand même une histoire parce que c'est aussi notre métier. Mais je pense à l'épisode sur Franz Willig, où Stéphane, donc c'était un malade psychiatrique qui a été exterminé parce qu'il était malade psychiatrique par les nazis, où Stéphanie commence l'épisode en racontant un voyage en train. Voilà, quelque part, c'est un peu romancé. Enfin, tu vois, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que tu racontes une histoire et en même temps, ce sont des faits. Il a vraiment pris ce train. Mais évidemment...
C'est vrai qu'on a des éléments, en fait, qui nous permettent de raconter, de retracer les parcours. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas, forcément. Comme surtout, en fait, on n'a pas des preuves de tout ou des témoignages de tout. Donc, parfois, on est obligé d'imaginer... En tout cas, qu'est-ce que ça a pu être sans que ce soit sûr. Mais voilà, quand effectivement 100 malades psychiatriques sont conduits dans un train, emmenés depuis l'Alsace jusqu'à Hadamar, où ils vont être assassinés, on n'a pas de témoignage direct de qu'est-ce qui s'est passé dans le train. En tout cas, moi, je n'ai pas eu accès avec le parcours de cette personne. Mais voilà, l'idée, c'est aussi qu'on retrace et qu'on rende accessible qu'est-ce qu'a pu être cet événement, qu'est-ce que ça a pu consister à ce moment-là dans la vie de ces personnes, tel ou tel épisode. Ouais.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter le texte introductif des podcasts pour qu'on ait un petit peu et le ton et la couleur de ces podcasts. Thomas, en régie, va nous mettre ça.
Ce mémorial, est-ce que c'est une forme de réparation ? Peut-être. Hein.
En fait, je me sens responsable et dépositaire de leur mémoire.
Et demain, peut-être qu'il aura son nom dans le mur des noms, avec toute son histoire.
Est-ce que c'est pour les vivants ou pour les morts ?
Et voilà.
J'imagine que c'est pour les vivants.
La région Grand Est présente Entre nuit et lumière. Le podcast du mur des noms d'Alsace et de Moselle. Une série de 10 épisodes en partenariat avec le Mémorial Alsace-Moselle et l'INA.
Je vois le mur des noms effectivement comme un appel à la population à rentrer en plein dans l'histoire.
Dans le centre de l'Alsace, à Schirmeck, se trouve un monument construit en hommage aux morts et disparus alsaciens et mosellans de la Seconde Guerre mondiale. Près de 40 000 noms y sont mis en lumière dans un environnement immersif. Ce podcast retrace le parcours de 10 de ces 40 000 victimes, un par catégorie de destin. Les incorporés de force, les juifs, les combattants sous uniforme français, les résistants, les victimes civiles, les homosexuels, les tziganés nomades, les témoins de Jéhovah, les malades psychiatriques. Des hommes, des femmes, des enfants. Voici leurs histoires.
Les 4 premiers podcasts audio sont en ligne sur le site de la région Grand Est. On retrouve Hélène Faller, une nomade alsacienne, une Yanish, la famille Moscovitz, une fratrie décimée par la Shoah, Suzanne Blaise, une victime civile des bombardements, encore Lucien Risser, un incorporé de force, mort pour la France. Alors on va revenir sur ces destins et sur les destins des prochains. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, on n'aura évidemment pas le temps et j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site pour les entendre. Moi je voulais juste parler de la partie audio aujourd'hui, évidemment. À l'heure où l'image est peut-être tellement impactante, l'image peut se suffire souvent à elle-même. Pourquoi le choix de l'audio ? Alors, nous, évidemment, c'est une position en radio qu'on défend, j'entends, mais il y aurait peut-être une facilité à amener de l'image dans un récit qui peut être plus impactant pour le public.
Alors, c'est vrai que vu la période, il y a peu, il n'y a quasiment pas de vidéos. En tout cas, on n'a pas eu accès à des vidéos sur les profils auxquels on s'est intéressé. Il y a aussi peu de photos, même. Mais c'est vrai que, on a privilégié les sons faire jouer aussi avec des voix, parfois des documents d'archives. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup plu dans le podcast, c'est que les documents d'archives, on n'a pas voulu les lire nous ou les faire lire par des historiens, mais on les a fait incarner par des comédiens. Donc on a fait un casting voix et on a choisi des comédiens et des comédiennes qui incarnent ces archives et qui donnent vraiment vie à ces documents avec toute une palette de tons et d'expressions en fait, que nous, on aurait été bien incapables de donner en tant que journalistes. Donc voilà, c'est quelque chose aussi. On va dire que l'exigence du son, je trouve que ça nous faisait réfléchir à comment est-ce qu'on raconte ces histoires, comment est-ce qu'on rend vivante ou on rend compréhensible, accessible aussi des documents qui peuvent être compliqués, arides. Et c'est ça qui nous a intéressés. Et parfois, on fait vivre des images aussi parce que parfois, il y a des photos qu'on raconte. Et ça aussi, c'était intéressant comme exercice.
Et je rajouterais juste qu'on a toutes les deux fait de la radio et non pas de la télé, qu'on connaît aussi ce média et on l'apprécie particulièrement. C'est aussi pour ça qu'on fait des podcasts. Et moi, je trouve que... Mais je suis peut-être d'une autre époque. Mais je trouve que le son est bien plus impactant que l'image. Et après, ce podcast, c'est vraiment un travail d'équipe parce que nous, certes, on a écrit les trames, on a rencontré les gens, on fait les interviews. Mais ce podcast ne serait rien sans Anna Buy, qui est la réalisatrice, et Charles de Cilia, qui est le compositeur, qui a fait la musique pour le podcast. Et je trouve que sa musique nous emporte vraiment dans une époque, dans une histoire. Anna Buy a fait un travail remarquable, comme elle fait à chaque fois dans chacun de ses podcasts, où elle apporte sa sensibilité. Le train, on y est. Quand Stéphanie décrit une photo, on entend le grain de la photo. Enfin, franchement, c'est un travail du son que je trouve extrêmement riche et précis et beaucoup plus fort, moi, je trouve, que les images. Et surtout, quand on parle d'histoire, ça nous fait voyager, quoi. Ça nous fait... On imagine et on y est.
Alors, ce sont des podcasts d'une durée de 20-25 minutes. Vous partez, vous, dans une trame. C'est la réalisation, après, qui est menée par Anna Buy. Et tout ça, c'est validé par le comité scientifique et historique. Vous les citiez de la région Grand Est. Un travail d'équipe, une validation finale, aujourd'hui, avec un regard historique.
Absolument. C'est quand même des historiennes qui sont derrière tout ça, qui ont aussi fait le travail de sélection des archives, qui était un travail très laborieux et minutieux. Encore une fois, nous, on n'est pas historiennes, donc heureusement qu'elles sont là pour relire ce qu'on écrit, corriger les erreurs parfois. Et puis, on a aussi interviewé des historiens qui sont spécialistes en la matière pour chaque épisode, qui apportent des précisions. Donc vraiment, c'est un travail historique.
Alors, on parlait des travaux, des archives et des travaux de recherche avec les archives. Comment est-ce que vous avez procédé ? Alors, vous avez les archives départementales, les archives universitaires, le mémorial du camp de Natzwiller-Schroothof ou encore les documents sonores. Ça, c'est plutôt vous qui les avez réalisés. Les rencontres avec les familles, comment est-ce que vous avez procédé ?
Alors, ce qui est d'intéressant avec aussi ce monument, c'est que c'est un monument qui est participatif ou collaboratif, c'est-à-dire qu'il est toujours en cours de constitution et donc les familles sont sollicitées, ou les proches, les descendants sont sollicités pour apporter des éléments sur les biographies des personnes de leur famille concernées. Et du coup... On a aussi choisi ces parcours. Enfin, je dis on, mais c'est vraiment toute l'équipe. Et et notamment les historiennes étaient déjà en contact avec des descendants. Quand on a pu retrouver des descendants, elles étaient souvent déjà en contact avec eux ou avec elles. Et du coup, nous, on a aussi été aiguillés sur ces profils parce qu'il y avait des personnes qui était prête à discuter avec nous et à nous raconter un peu ce qu'elle savait de leurs proches.
dans ces travaux de recherche, aujourd'hui, vous amenez des éléments nouveaux, parce qu'évidemment, on part d'archives, d'histoires connues, mais qui n'ont pas forcément été médiatisées. Vous amenez des éléments nouveaux au public, aux gens qui vont écouter ces podcasts.
Alors, en ce qui me concerne, en rencontrant l'un des descendants d'une des personnes sur qui on fait un épisode, donc l'épisode c'est sur Joseph Schlinger, c'était un aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai rencontré son fils, qui a aujourd'hui 86 ans. C'était une rencontre évidemment très émouvante, surtout qu'il a perdu son papa, il était très jeune, il avait 4 ans, donc il a très peu de souvenirs de son père. Mais en fait, il a découvert toute l'histoire de son père très très tardivement, à 70 ans passés, quand on a retrouvé l'avion de son papa dans la Méditerranée, etc. Et il a eu accès à un carnet de bord de son escadrille. Et donc, il me l'a montré. Et moi, j'ai pris en photo, il me l'a lu, c'était assez émouvant parce qu'on parle de son père. C'est un carnet de bord écrit par les camarades de son père. Donc, en fait, ils parlent entre eux, ils se donnent des petits surnoms. On découvre plein de petites histoires dans la grande histoire, encore une fois. Et il se trouve que cette archive-là, les historiens de la région ne l'avaient pas. Et ça a permis, par exemple, de savoir que le papa avait décollé, non pas de Naples, mais... de Sardaigne,
d'Alghero
en Sardaigne. Et donc ça, par exemple, c'est une information qu'on n'avait pas, que les historiens n'avaient pas. Donc là-dessus, on a avancé. Après, c'est vraiment un point de détail dans l'histoire de ce monsieur, mais c'était quand même quelque chose de nouveau et d'émouvant. Est-ce qu'il y a autre chose ?
Peut-être plus par rapport à la démarche. C'est vrai que le fait, je pense, d'aller rencontrer les gens chez eux ou alors dans des lieux qui ont du sens. Je pense à l'incorporé de force, par exemple. Je vais dans le cimetière où il est enterré. Là, on se rend compte que c'est le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le même destin dans ces cimetières. Mais bon, c'est le seul où son histoire est un petit peu mentionnée sur sa tombe. Donc, ça raconte aussi quelque chose. Maude aussi s'est déplacée chez une descendante. Donc je pense que oui, ça amène quelque chose qui est peut-être soit des informations qui sont précises et qui n'étaient pas connues, soit toute une dimension auquel on n'a pas forcément accès juste quand on consulte les archives visuellement.
Ces podcasts vont devenir des outils pédagogiques qui vont être audibles et par exemple par les scolaires.
Oui, je crois que c'est le projet de la région. Julia Maspero, qui est la porteuse principale du podcast, a déjà commencé, je crois, à faire des ateliers dans des classes et même auprès de différents publics dans des villages de Moselle, d'Alsace, où elle explique la démarche, elle explique le podcast. Je crois qu'à terme, elle a prévu de faire écouter peut-être quelques extraits. Ça, c'est sûr. Je sais aussi qu'il y a une exposition qui est prévue peut-être prochainement.
Et moi, j'ai déjà été contactée parce que j'interviens par ailleurs, je fais aussi de l'éducation aux médias. Et il se trouve qu'une des professeurs avait entendu les podcasts et m'a fait part de... Enfin, je pense qu'il va y avoir vraiment une demande des enseignants. Elle aurait aimé, enfin, elle était très intéressée de savoir qu'il allait avoir un travail pédagogique autour de ces épisodes auxquels... autour desquels elle pourrait faire travailler ses élèves.
4 premiers noms aujourd'hui pour des podcasts à qui vous rendez hommage, à qui aujourd'hui vous portez la mémoire et leur histoire, la petite histoire qui rejoint la grande histoire. 38 000 noms sur ce mur. Vous avez cette curiosité aujourd'hui d'avoir envie d'aller creuser peut-être sur d'autres destins. Alors, je parle presque à titre personnel.
Alors, on aimerait peut-être en effet transformer ça en documentaire télé pour le coup. Ça serait, c'est l'un des projets à l'étude, voilà. Mais c'est pour l'instant une réflexion. C'est sûr que ça nous a donné des pistes ou des envies d'autres sujets. Par exemple, moi, j'ai fait un épisode sur une dame qui s'appelait Marie-Augustine Kiefer et qui a été victime de la Sippenhaft. Et la Sippenhaft, c'était l'ordonnance qui permettait aux nazis de... Ça s'appelait en gros, c'était la loi de la responsabilité familiale qui permettait de dire on va rafler tous les membres de la famille d'un Alsacien ou Mosellan qui a refusé de venir combattre pour nous. hein, les fameux malgré nous. Quand les malgré nous désertaient en essayant de fuir, en se disant « je ne veux pas y aller », ben on raflait la mère, la grand-mère, la femme, tous ceux qui étaient dans la maison. Et donc Marie-Augustine Kiefer est l'une de ces victimes, et c'est vrai que moi je ne suis pas alsacienne. Je suis là dans la région depuis quelques années, mais donc j'ai découvert l'histoire de l'Alsace à travers ce podcast et notamment de la Zippenhaft. Et ça m'a touchée, intéressée. J'ai rencontré une autre petite fille d'une autre victime de la Zippenhaft. Et voilà, tout ça, c'est des projets qui se mûrissent, qui prennent du temps, mais c'est vrai que ça donne envie peut-être d'en faire autre chose.
Stéphanie Wenger, hein.
Alors moi, je suis alsacienne et c'est vrai que... Alors dans mon parcours, c'est intéressant ce podcast parce que moi, j'ai plutôt été une grande partie de ma vie basée à l'étranger, dans des correspondantes à l'étranger, dans des pays comme l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. Voilà, donc plutôt a priori assez peu intéressée par mon histoire familiale et par cette histoire régionale, en fait, enfin, qui est aussi une histoire mondiale, mais... Donc ça m'a replongée dedans et c'est vrai que voilà, je n'ai plus, j'ai peu de membres encore de ma famille vivante qui ont vécu cette histoire, mais je me suis intéressée effectivement à leur parcours. Donc eux, ils avaient quitté la région bien avant, en tout cas en 1939, ils n'étaient plus là. Voilà, mais c'est vrai que j'ai retrouvé des noms de famille, par exemple de cousins par alliance, quand j'ai été faire un reportage dans le Haut-Rhin. Donc ça m'a interpellée, ouais, d'un point de vue personnel. Et je trouve que ces histoires très particulières, donc on s'attache un peu à ces personnes, hein, on s'attache à leur destin, à ce qui leur est arrivé. Mais moi, je sais que maintenant, j'ai souvent un peu le réflexe et l'envie d'aller voir d'autres histoires, de chercher dans la base, grande base de données, parce qu'il y a une grande base de données, de chercher des noms de famille. Donc j'ai cherché plusieurs fois des noms de ma famille pour voir s'il y avait des personnes. Bon, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. Ouais.
Et la curiosité journalistique qui rejoint la curiosité familiale et qui rejoint la grande histoire de nous tous. Maude de Carpentier et Stéphanie Wenger, merci à toutes les deux d'être passées nous voir pour nous parler de ces podcasts.
Merci beaucoup.
Il y en a quatre en ligne pour le moment, entre Nuit et Lumière, Le Mour des Noms, les autres sont à suivre et c'est sur le site de la région Grand Est.
Et sur les plateformes, on les trouve aussi sur les plateformes de podcasts, donc Spotify par exemple, et bientôt sur Savoir Plus, donc une plateforme de Radio France.
Bientôt sur Radio France, ça va aussi permettre une plus grande écoute, on l'espère.
Et vraiment, j'invite nos auditeurs à jeter une oreille, non, à se poser, à écouter. Et c'est une mine d'informations et des podcasts nécessaires aujourd'hui. Merci à vous.
Merci pour votre invitation.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.